Bonjour à tous. Alors, je vais finir ce que j'ai commencé samedi dernier. Samedi dernier, je vous avais parlé du cardinal Saint John Henry Newman. Je vous ai raconté sa vie, sa spiritualité et son œuvre. Et là, je vais finir, ça va être plus court aujourd'hui que la semaine dernière, je vais finir par sa postérité. Alors, il faut savoir que Newman a été pasteur pendant presque toute sa vie, curé de paroisse, responsable de communauté et guide spirituel pour des milliers de personnes qu'il a eues sous sa charge. Mais il faut savoir qu'il fut cependant, pendant une quinzaine d'années, le prédicateur le plus écouté et le plus lu de toute l'Angleterre. Il est considéré comme l'un des plus grands écrivains anglais du XIXe siècle. Il est l'auteur d'une soixantaine de livres et d'une vaste correspondance constituée de plus de 20 000 lettres, sans compter les sermons, les conférences, les essais, les méditations et les prières. Alors, à ce titre de son vivant, lorsque certaines personnes le traitaient déjà de saint, il protestait en disant que les saints n'écrivent pas de romans. En 1850, après avoir fondé le premier oratoire en Angleterre, il disait à ses confrères de l'oratoire que le monde ne puisse jamais vous connaître suffisamment pour faire votre éloge ou vous critiquer, que vous puissiez faire beaucoup de travail pendant votre vie et accomplir beaucoup de tâches utiles et réaliser bon nombre d'objectifs religieux et envoyer beaucoup d'âmes au ciel et surprendre les hommes par la quantité de travail que vous accomplissez. Lorsque par hasard ils s'approcheront suffisamment de vous pour s'en apercevoir, mais que vous soyez ignorés du monde, que vous soyez inconnus en dehors de votre lieu de vie immédiat, que vous travaillez pour Dieu seul, avec un cœur pur et regard simple, sans être distrait par les éloges des hommes, et que vous fassiez de lui votre unique espérance et de son ciel éternel votre seul but, et que vous trouviez votre récompense, non pas en partie ici-bas, mais totalement et entièrement dans le monde à venir. Donc le cardinal Newman, ce qu'il disait à ses frères, il se l'appliquait à lui-même, il voulait pas être une star, comme on dirait maintenant. Ben, il connaît pourtant une postérité glorieuse en devenant une référence de choix pour de nombreux auteurs chrétiens britanniques tels que Chesterton ou Julian Green, qui était l'ami de Jacques Maritain. L'auteur irlandais James Joyce considère quant à lui qu'aucun prosateur n'est comparable à Newman. Et le théologien allemand Eric Psivara de déclarer ce que saint Augustin a été pour le monde antique, saint Thomas pour le Moyen-Âge, Newman mérite de l'être pour les temps modernes. Benoît XVI, qui le connaissait bien par ses écrits et l'appréciait énormément, le situe dans la lignée des saints et érudits britanniques, à l'image de saint Bède, saint Hilda, saint Aelred et le bienheureux Jean Duns-Scott. Il disait « John Henry représente cette tradition d'élégante érudition, de profonde sagesse humaine et d'ardent amour du Seigneur. » Il fait aussi allusion à la devise du cardinal « cor ad cor loquitur », c'est-à-dire « le cœur parle au cœur ». Le pape, particulièrement frappé des institutions éducatives du cardinal, soulignait son approche de l'éducation ample en ses fondements et ouverte à de larges perspectives ne furent pas seulement d'une importance capitale pour l'Angleterre de l'époque victorienne, mais elle continue à inspirer et à éclairer bien des personnes de par le monde. Je voudrais rendre un hommage particulier à l'éducation qui a eu une grande influence pour former l'éthos, force motrice qui soutient les écoles et les collèges catholiques d'aujourd'hui. Newman, donc théologien et christologue reconnu, est une figure majeure du catholicisme britannique avec Thomas More, Henry-Edward Manning et Ronald Knox. Il exerce une influence considérable sur les intellectuels catholiques européens. Pour Xavier Tillet, il apparaît comme une grande personnalité, singulière, une sorte de siège pascal dans l'Église catholique du XXe siècle. Ses écrits sur la conscience, le rôle des laïcs et la relation foi-raison demeurent d'une actualité brûlante. Newman refusa pourtant toujours le titre de théologien, mais il est reconnu donc comme le plus grand penseur du XIXe siècle. Sa pensée se trouve souvent en avance sur les positions théologiques de l'Église catholique de son temps. Et c'est surtout au XXe siècle qu'il finit par marquer profondément la pensée de l'Église catholique. Jean Guiton l'appelait le penseur invisible de Vatican II. Le pape Paul VI souligne lui aussi à plusieurs reprises son importance ainsi que son influence sur le Concile. Il affirmait que Newman était un guide sûr pour tous ceux qui sont à la recherche d'une orientation précise et d'une direction à travers les incertitudes du monde moderne. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, le cite plusieurs fois dans ses encycliques et il écrivait à ce sujet en 1991 lorsqu'il l'a déclaré vénérable. Newman arriva vraiment à une synthèse exceptionnelle entre foi et raison, qui pour lui était comme deux ailes sur lesquelles l'esprit humain atteint la contemplation de la vérité. Ce fut la contemplation de la vérité qui le conduisit à une acceptation libératrice de l'autorité dont les racines sont dans le Christ, et à un sens du surnaturel qui ouvre l'esprit et le cœur humain à une vaste gamme de possibilités révélées dans le Christ. Benoît XVI a reconnu son influence sur lui et sur toute sa génération de théologiens dans deux domaines en particulier, celui de la conscience et celui de la conception du développement. J'ai déjà évoqué combien les réflexions de Newman ont influencé le Concile. Ses œuvres mettent en lumière l'importance de la conscience individuelle qu'il décrit comme le vicaire originel du Christ en chaque personne. Il promeut le dialogue œcuménique, encourageant les essences entre catholiques et anglicans et une évangélisation fondée sur la bienveillance et le respect plutôt que sur le prosélytisme et le jugement. Donc, je l'ai dit, déclaré vénérable en 1991, il fut béatifié en 2010 à Birmingham par le pape Benoît XVI en personne. D'habitude, pour les béatifications, le pape délègue la mission à un cardinal. Mais là, il a voulu se rendre personnellement à Birmingham parce qu'il nourrissait un attachement personnel à son regard. Je le cite encore. Cet homme profondément pieux a vécu cette vision profondément humaine du ministère sacerdotal dans le souci dévoué des gens, en rendant visite aux malades et aux pauvres, en réconfortant les abandonnés, en prenant soin de ceux qui étaient en prison. Il prononça également ces paroles fortes. Je crois que le signe caractéristique d'un grand maître dans l'Église est qu'il enseigne, non seulement par ses idées et ses paroles, mais aussi par sa vie. Car en lui, pensée et vie se compénètrent et se déterminent mutuellement. Si cela est vrai, Newman fait partie en vérité des grands maîtres de l'Église, car il touche notre cœur et illumine notre intelligence. Le 13 septembre 2019, Newman fut canonisé par le pape François, qui expliqua dans l'encyclique Dilexit Nos, publiée en 2024, pourquoi Saint John Henry Newman choisit comme devise la phrase « Cor a cor loquitur ». Il écrit « Parce que, au-delà de toute dialectique, le Seigneur nous sauve en parlant à notre cœur depuis son cœur. » Cette même logique, affirme François, faisait que, pour lui, grand penseur, le lieu de la rencontre la plus profonde avec lui-même et avec le Seigneur n'était pas lecture ou réflexion, mais le dialogue priant de cœur à cœur avec le Christ vivant et présent. C'est pourquoi Newman trouvait dans l'Eucharistie le cœur de Jésus vivant, capable de libérer, de donner un sens à chaque instant et d'insuffler à l'homme la paix véritable. Alors, je précise aussi que Newman est l'auteur de deux méditations, dont l'une a été choisie par Jean-Paul II pour le chemin de croix en 2001. Newman insiste sur le fait que la véritable contemplation du Christ se fait dans les affaires terrestres, que c'est en obéissant à sa propre vocation que le chrétien rencontrera le Christ et qu'il verra celui-ci se révéler à son âme parmi les actions ordinaires de chaque jour comme par une sorte de sacrement. Le chrétien est appelé à se laisser habiter par l'Esprit du Ressuscité et à laisser rayonner en lui et à travers lui la lumière du Christ. Mais l'unique chemin qui y conduit est celui d'un abandon entre les mains du Père. Alors je rajoute pour terminer des nouvelles fraîches du Vatican, puisque jeudi, donc avant-hier, le pape Léon XIV a reçu le roi Charles III. Ils se sont retrouvés dans la chapelle Sixtine pour une célébration œcuménique en latin et en anglais. C'est la première fois qu'un souverain anglais et le chef de l'Église catholique se rencontrent depuis la rupture avec Rome au XVIe siècle. Alors cette prière a commencé avec l'hymne à l'Esprit Saint, composé par saint Ambroise et chanté selon une traduction anglaise de saint John Henry Newman. Et plus tard dans la journée, le roi s'est rendu dans la basilique de Saint-Paul hors les murs, où il a été fait confrère royal par le pape Léon XIV. Et la cérémonie s'est terminée par l'hymne « Louange au Dieu très haut dans les cieux » dont le texte est tiré du poème « Le rêve de Géronzio » de Newman. Je vais finir avec une prière de Newman. Seigneur, en te demandant la ferveur, je te demande toi-même. Je ne demande rien d'autre que toi, ô mon Dieu, qui t'es donné entièrement à nous. Entre dans mon cœur et remplis-le de ferveur en le remplissant de toi. Tu es la flamme vivante qui brûle d'amour pour les hommes. Entre en moi et pour que je sois semblable à toi, enflamme-moi de ton feu. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci, au revoir.